Vous êtes sur RTL. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, 18h, 18 minutes, bonne fin de journée. Donc place à l'événement du jour. Nous attaquons aujourd'hui dans RTL Soir nos débats présidentiels. Pendant toute la campagne, des candidats seront confrontés sur RTL à leurs opposants sur des thèmes qui vous concernent au quotidien. Tiens, vous nous écoutez peut-être au volant ou sur le quai du train ce soir pour rentrer du boulot. Justement, on s'interroge. Quelle place pour la voiture dans le monde de demain? Alors, face à face, Anne Hidalgo, maire PS de Paris, candidate à l'élection présidentielle, bonsoir.
Bonsoir.
Et Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, bonsoir.
Bonsoir.
Tous les deux, vous ne vous êtes jamais épargnés, hein, on peut le dire. Vous allez échanger publiquement ce soir pour la première fois. Et qui sait, peut-être que vous arriverez à faire vôtre, in fine, le slogan de RTL.
Revivre
ensemble. Alors, fixons les règles. Nous allons séparer ce débat en deux parties. Un, la voiture à la campagne en banlieue, bref, là où elle est très souvent indispensable. Deux, la voiture dans nos villes. Et Christophe Bourroux, spécialiste auto de RTL, est aussi en studio. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Pour vérifier les chiffres que vous allez peut-être nous donner et éviter, si besoin, toute contre-vérité. Vous avez 15 minutes pour débattre. C'est parti. Avant toute chose, question simple à tous les deux. Comment vous êtes venus ici dans notre studio à Neuilly-sur-Seine? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'embouteillages aux alentours. Voiture, métro, bus, trottinette, vélo, est-ce que vous avez fait votre choix, Anne Hidalgo?
Métro.
Métro.
Ligne directe.
Ligne directe,
ouais.
Une, hôtel de ville, absolument. Les Sablons, Neuilly. Ouais. Pierre Chasseret?
À pied, car j'étais au téléphone.
Ah bah c'est bien, vous voyez, on sort tout de suite des clichés. Ceci étant dit, on va commencer ce débat avec la préoccupation numéro un de beaucoup de nos auditeurs, notamment à la campagne et en banlieue, le prix du carburant. Vous savez tous les deux qu'en ce moment, le prix du litre atteint 2 euros dans certaines stations. Essence, ce matin, Anne Hidalgo, surprise, vous avez proposé de baisser les taxes sur les carburants pour donc faire baisser les prix à la pompe. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, alors même que vous avez réduit la place de la voiture à Paris et que vous militez pour une transition énergétique rapide ?
Non, au contraire, la transition énergétique rapide doit se faire. Et si je parle de Paris, mais on en parlera tout à l'heure, c'est une ville où 30% des Parisiens à peu près ont aujourd'hui un véhicule à eux, mais où l'essentiel de la mobilité se fait en transport en commun ou à pied. Chacun a à 10 minutes à pied de chez lui une station de métro ou de bus. Donc là, le sujet, c'est la France entière. Mmh. Et bien sûr qu'il y a une situation très différente entre les grandes métropoles, qui parfois même ont des transports gratuits, et les territoires plus ruraux, dans lesquels, pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'investissement, même au contraire, on a retiré des petites lignes ferroviaires, dans lesquelles on n'a pas accompagné les gens pour qu'ils puissent acheter des véhicules électriques ou autres. Et donc, c'est là, aujourd'hui, que le prix du carburant va peser très très lourd sur le pouvoir d'achat de ces personnes qui sont souvent des classes moyennes, des travailleurs, des gens qui cherchent un emploi, des retraités qui ont des activités bénévoles. Et donc, il faut bien sûr s'intéresser à eux. On est dans une situation exceptionnelle et à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. La situation exceptionnelle, c'est l'augmentation des prix du carburant. On sait que en 2018, 3 centimes d'euros de taxes
On est dans une situation, effectivement, en termes de prix du baril,
voilà.
Très proche
là,
de celle pré-gilets jaunes.
On est dans cette situation et je pense que j'en discutais encore tout à l'heure avec le ministre espagnol des Affaires étrangères et qui me disait, en fait, il n'y a pas 36 000 leviers. Face à une situation aussi exceptionnelle, le levier qu'ont les États, c'est le levier de la TVA pour baisser les taxes. Mais je maintiens qu'il faut sortir de toute façon des véhicules thermiques. Paris, on a dit 2030, la France pour l'instant c'est 2040, je pense qu'il faut aller à 2030 pour toute la France, pour vraiment pouvoir faire cette transition écologique, mais aider le pouvoir d'achat des personnes qui n'ont pas de choix autre que de prendre leur véhicule personnel.
Pierre Chasseret, cette baisse des taxes, vous l'avez réclamé pendant des mois, après avoir dénoncé la politique d'Anne Hidalgo pendant des années, est-ce que ce soir vous applaudissez?
Alors vous savez, déjà 40 millions d'automobilistes, moi on s'en fiche, ce qui m'intéresse c'est les 40 millions d'automobilistes qui m'écoutent ce soir et qui se disent qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé chez Anne Hidalgo? Je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas là pour dire Anne Hidalgo c'est bien, c'est pas bien. Moi je dis juste que là, vous avez compris un point qu'aucun candidat n'a compris. Pour l'instant, on a saisi tous les candidats à la présidence de la République. Personne ne nous a répondu. En revanche, je m'interroge, parce que je vous ai entendu, Anne Hidalgo, vous dites baisse des taxes. Ok, super. Mais si c'est pour rendre 3-4 centimes par-ci par-là, c'est pas la peine. Alors, L'annonce, je l'ai entendue, mais moi je veux savoir, et tous ceux qui nous écoutent veulent savoir, c'est quoi la baisse des taxes? Ça correspond à quoi? Parce que passer d'un 61 à un 58, ça va révolutionner personne. Et si c'est juste pour un effet d'annonce,
c'est une question, Anne Hidalgo, qui intéresse aussi les auditeurs, parce qu'on était dans le journal, vous l'avez sans doute entendu, à 18h, sur une terre de gauche, et on est allé interroger justement les sympathisants socialistes, automobilistes, dans un endroit à Libourne, où ils sont bien souvent obligés de prendre leur voiture sur votre proposition.
Où il y a beaucoup d'embouteillages. Aussi.
Il y a beaucoup d'embouteillages. Ils ont du mal à croire à votre sincérité. Mmh. Peut-être parce que vous avez cette image, peut-être à cause de Pierre Chasseret, je ne sais pas, mais de candidate un peu bobo, écolo, très parisienne.
D'abord, je suis candidate, c'est vrai, à l'élection présidentielle. Paris, c'est mon cœur, c'est ma ville, c'est une réalité qui est très différente, par exemple, de celle de territoires ruraux, ou par exemple même, puisque vous pensez à une ville dans la banlieue de Bordeaux, où la situation est quand même très très différente. Donc il faut aider toutes les Françaises et les Français. Je suis d'accord avec Pierre Chasseret, il ne s'agit pas de dire ces 3 centimes par-ci, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Je l'ai dit, il y a une situation exceptionnelle. Une inflation qui touche aujourd'hui essentiellement les matières premières, l'énergie et bien sûr les carburants. C'est une situation exceptionnelle qui n'est d'ailleurs pas simplement une situation française sur laquelle un certain nombre de gouvernements, je reprends le cas de l'Espagne, ont déjà agi. Par exemple, l'Espagne a déjà bougé les taxes, la TVA, pour faire vite, sur non pas l'essence, mais sur tout ce qui a trait au gaz et au chauffage. Donc moi, ce que je propose, c'est que de façon exceptionnel et bien sûr pour couvrir cette période-là, on puisse jouer sur la TVA. La TVA aujourd'hui, elle est à 20%. La TVA aujourd'hui, elle est à 20% sur l'essence. Je propose qu'on puisse la passer à 5,5.
C'est-à-dire
comme un bien de première nécessité.
Voilà, c'est ça la clé. C'est le bien de première nécessité. Là, vous savez, il y a des fois où c'est difficile de dire non. Ça se traduit par une baisse effective du prix du carburant d'en gros 20-22 centimes
au litre.
C'est concret. Mm-hmm. Effectivement, là, j'ai envie de dire, c'est la préoccupation majeure des Français.
C'est une mesure de pouvoir d'achat.
Mais vous dites, c'est une façon de raccrocher ceux qui aujourd'hui sont contraints de prendre leur voiture à la transition énergétique. Mais là, effectivement, on leur donne un coup de pouce, mais comment on les raccroche? Parce que dans le même temps, vous voulez qu'ils abandonnent leur voiture thermique d'ici
d'abord,
2030. Alors comment?
Ils seront obligés d'abandonner leur voiture thermique parce que les constructeurs ont déjà engagé, et tant mieux, parce qu'on a poussé pour ça, on a fixé un cap, et les constructeurs ont déjà engagé la transformation du secteur automobile. Et il y aura d'ici 10 ans quasiment plus de véhicules thermiques. Il restera les véhicules d'occasion, sur lesquels il faudra mettre ce qu'on appelle du rétrofit, faudra accompagner. Mais moi, ce que je veux surtout dire d'abord à tous ces gens qui subissent le prix de l'essence et qui ne peuvent pas faire autrement, parce que on les a en plus rendus dépendants au diesel, dépendants à la voiture individuelle, sans même, par exemple, le plan de relance qui est là sur la table, pourquoi ne l'a-t-on pas mis vraiment mobilisé pour aider toutes ces personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui s'acheter un véhicule électrique, pourquoi ne l'a-t-on pas mis vraiment sur la table pour les accompagner dans l'achat de ces véhicules? Il y a des primes à l'achat de véhicules, et Paris en fait aussi pour les Parisiens, mais pas suffisant. Il y a des gens qui ont un tel reste à charge s'ils voulaient changer de véhicule qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, ce que je veux dire à toutes ces personnes-là, c'est oui, moi j'ai entendu que, et vous avez raison, la transition écologique ne peut pas se faire contre vous ou sans vous. Et oui, c'est absolument indispensable de faire cette transition écologique pour nos enfants, pour les générations futures, pour pouvoir vivre sur cette planète. Et là, on est dans une période, un contexte très particulier où il faut vous aider en termes de pouvoir d'achat, parce que vous ne pouvez pas subir la double peine.
Pierre Chasseret, pour conclure sur ce thème du carburant.
Le premier, c'est transition. J'entends le mot transition, et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on nous a parlé de transition écologique, c'était pas la transition, c'était de la rupture. Et la rupture, c'est pas une transition. La transition, c'est en douceur. Tous les automobilistes sont convaincus que, sans doute, effectivement, peut-être que leur prochain véhicule, d'ailleurs, de plus en plus, on commence à regarder ce qui se passe, l'intérêt, l'engouement des Français, ne serait-ce que pour l'hybride, est en train d'être grandissant. Donc ça, c'est une réalité. Mais il faut pas Il ne faut pas toucher à ces automobilistes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de changer leur véhicule. Moi, j'ai un exemple concret. Celui-là, il remonte à 2018, au début des Gilets jaunes. Je me souviens de ce moment qui a été terrible. Je rentre de vacances à l'association et je vois un écran de boîte mail de l'association rempli de messages sur les carburants. À cette époque, aucun candidat ne nous écoutait. Aucun politique n'écoutait 40 millions d'automobilistes. Cette histoire de la baisse de la fiscalité, on la porte maintenant depuis plusieurs années. Moi, ma question, je voudrais savoir pourquoi, ça c'est ma question, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour... Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Ils se disent, mais Anne Hidalgo, d'habitude, c'est pour nous annoncer une mauvaise mesure. J'ai frôlé l'infarctus du myocarde ce matin, moi, Anne Hidalgo.
Mais vous êtes là, vous êtes vivante, tout
va
bien.
Je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit pour se dire, aujourd'hui, je vais en faveur des automobilistes qui sont dans leur voiture en France.
Alors, Anne Hidalgo, qu'est-ce qui s'est passé ?
D'abord, en tant que maire de Paris, je n'ai pas cette même préoccupation. Je n'ai pas eu à voir cette même préoccupation, puisque le sujet principal d'une ville comme Paris, comme de toutes les grandes villes du monde, c'était la pollution, diminuer le trafic automobile, faire en sorte que tous ceux qui pouvaient faire autrement que
on
de prendre leur voiture
juste après la
puissent faire autrement.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est en allant à la rencontre des Français pendant ce mois
depuis
que vous êtes candidate ?
Je connais quand même la France et je connais la vie des Français. Mais c'est surtout de voir la crise qui est en train de se profiler à nouveau devant nous. On a connu la crise des Gilets jaunes. Ça a été quelque chose d'extrêmement dur, à la fin extrêmement violent, mais qui partait d'une vraie question sociale. Là, on va se retrouver dans la même situation sans anticiper. Or, on peut anticiper pour plein de raisons.
Juste en amont, vous avez chiffré le coût de cette mesure ?
En fait, si vous passez la TVA de 20% à 5,5%, c'est autour de 8 milliards d'euros. Mais je crois qu'il faut, en tous les cas, le faire. Il faut accompagner nos concitoyens pour qu'ils puissent passer le cap, sans quoi... Je vais vous dire, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Regardez la crise des gilets jaunes non gérée. Combien de milliards ont été mis sur la table ? Ça a servi à quoi ? À qui ? On n'en sait rien. Et je crois qu'il faut vraiment se dire que on gagne à accompagner socialement des gens qui sont en difficulté, à les embarquer dans la transition écologique, parce que de toute façon, l'horizon à 2030, 2040, de plus de véhicules thermiques, il est là et on va le tenir. Mais au moins, ils sont avec nous. Ils ne sont pas en dehors de ce grand projet qui est la transition écologique de notre pays.
Anne Hidalgo, Pierre Chasseret, vous restez avec nous. On va marquer une très courte pause dans ce débat et puis on va s'intéresser à des points un peu plus marqué sans doute de désaccord sur la place de la voiture en ville. On va parler notamment des 30 km/h, du stationnement, de la cohabitation entre vélo, voiture et trottinette qui n'est pas toujours facile. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après ça sur RTL.
Julien Cellier, RTL Soir.
Allez, 18h33 minutes, RTL Soir continue avec donc l'événement ce soir, le premier de nos débats présidentiels. Un candidat face à un opposant sur un thème de campagne qui vous concerne ce soir, Anne Hidalgo face à Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes avec en creux cette question, quelle place pour la voiture dans le monde de demain ? On va se pencher sur nos villes maintenant. Anne Hidalgo à Paris, vous avez abaissé la vitesse quasiment partout à 30 km/h début septembre. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez tirer un premier bilan en termes de pollution, de bruit ? D'accident.
Pas encore, c'est un peu court, mais bien sûr qu'à Paris, d'abord, vous savez, ce sont des mesures qui sont portées aussi par les Parisiens. Hein. Ce sont des mesures qui ne sortent pas comme ça du caprice de tel ou tel élu. Ça participe d'une vision d'une ville dans laquelle, parce qu'on a beaucoup de transports en commun, parce qu'il y avait beaucoup de pollution, nous pouvons effectivement nous passer en partie de voiture. Il y a des gens qui ne pourront pas s'en passer et il faut des dérogations pour eux. Évidemment, ce que nous portons. Mais aujourd'hui, très concrètement, les Parisiens, pas simplement ceux qui ont voté pour moi, beaucoup de Parisiens qui m'ont dit au moment où on avait fermé les voies sur berge pour réduire la pollution, qu'ils étaient très agacés, très énervés.
Ils en faisaient partie, je crois.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a peut-être pas changé, mais aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là me disent, en fait, je suis passé à autre chose, soit au transport en commun, soit au vélo électrique.
Vous êtes passé à autre chose
Et ça va beaucoup mieux. Mais cette solution-là n'est pas valable, évidemment, pour des villes, des territoires qui n'ont pas la même densité et la même densité de transport en commun et même les mêmes problèmes de pollution atmosphérique que nous avons à Paris.
Est-ce que vous êtes passé à autre chose ? On rappelle aussi que la 30 km/h, ça existe à Grenoble, à Lille, à Nantes, à Rennes. Ce n'est pas,
et que la vitesse moyenne à Paris est de 15 km/h. Hein.
Oui, d'après les données, notamment GPS des opérateurs.
Est-ce que je suis favorable avec l'association 40 millions d'automobilistes aux 30 km/h généralisés ? Fondamentalement, non. Maintenant, on fait quoi
avec ça? Ça ne me surprend pas.
Voilà. On fait quoi avec cette position? Soit on regarde devant, soit on conduit en regardant dans le rétroviseur. Moi, j'ai face à moi quelqu'un qui est prêt à construire. J'ai envie de proposer. Je viens d'entendre quelque chose à Hidalgo. Personne l'a entendu. Mais moi, c'est un combat majeur pour les automobilistes en France. Vous venez d'employer un mot, et je l'ai bien entendu, dérogation. Quand vous parlez de dérogation, est-ce que vous faites référence aux zones à faible émission?
Quand je parle de dérogation, je parle d'un pragmatisme qu'il nous faut avoir. Par exemple, puisque nous sommes, Paris et d'ailleurs l'agglomération maintenant parisienne, une zone de faible émission, on a regardé. Il y a des gens qui sont venus nous voir, je pense par exemple aux commerçants des marchés alimentaires qui nous ont dit « Ah ben nous, on n'a pas les moyens, même avec vos aides, parce qu'on a mis en place des aides, on cumule d'aides pour les aider à changer de véhicule. » Ils nous ont dit « Non, on ne va pas y arriver. » Ben, on est pragmatique aussi. On regarde ces dérogations. Ce qui nous importe, c'est de baisser le niveau de pollution, de s'inscrire vraiment de façon très claire dans un calendrier de cette transition écologique qui nous amène à être moins pollués.
C'est vrai qu'on s'interroge sur les dérogations, peut-être, et vous aussi, Pierre Chasseret, sur les automobilistes plus lambda. Parce que d'ici 2024, les voitures avec des vignettes critères 2, donc ça concerne beaucoup d'automobilistes parisiens, ne devraient plus pouvoir rouler dans la capitale. C'est ce type de dérogation. Mais que vous souhaitez,
il y a un constat, c'est que, et ça on l'a toujours dit à 40 millions d'automobilistes, bien sûr les villes n'ont pas vocation à accueillir toutes les voitures de la planète,
oui,
bien
ou
sûr.
Ou être traversées par le centre, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens.
C'est une évidence, mais il faut développer alors des axes périphériques qui permettent de contourner les villes. Si on fait ça, ça marche. Il faut développer les parkings relais aux entrées des villes.
Absolument, ce qui est permettre... aussi
voilà, ça a été fait du côté de Lille. Oui. Martine Aubry a fait
aussi,
ça de mémoire.
On le fait.
Et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire, on pose la voiture, on prend les transports, c'est gratuit, surveillé. C'est génial, on est sûr de retrouver la voiture dans le même état. Mais moi, ce qui m'importe, c'est, je vais vous prendre deux, trois exemples, parce que là, on va dépasser Paris. Je veux savoir, on prend quelqu'un qui a son fils, je ne sais pas, qui habite Sotteville-lès-Rouen, qui doit basculer, emmener son fils à un soin médical à Rouen, et qui n'a pas la voiture qu'il faut. On met en place une dérogation. Vous, présidente de la République, vous mettez en place une dérogation?
C'est pas le rôle du président de la République, mais je pense que les élus locaux sont capables de porter ce type de dérogation. D'ailleurs, vous savez, quand on nous avait proposé il y a quelques années de mettre en place un péage urbain autour de Paris, on m'avait dit, beaucoup de Parisiens qui ont râlé contre les voies sur berge m'ont dit « Ah, mais mettez un péage, ça ira bien, comme ça les gens rentreront plus ». La question que je me suis posée, c'est justement celle-là. Que fait la personne qui doit accompagner son enfant ou son parent à l'hôpital et qui n'a pas les moyens de payer ce péage? Et donc j'ai toujours refusé ce péage. Mais bien sûr qu'il faut mettre en place des mesures pragmatiques d'accompagnement. Il faut regarder les situations. Par exemple, sur une ville comme Paris, on a, sur les questions de stationnement ou autre, travaillé, discuté avec les infirmiers, infirmières libérales, les médecins qui nous ont dit, mais nous on a besoin de stationner et de pouvoir avoir un stationnement gratuit. Et bien, on l'a fait, on a discuté avec eux et on a apporté des solutions à des professions.
Juste pour terminer, elles
qui,
sont suffisantes, ces solutions,
avaient des difficultés.
J'entends une voie d'ouverture, c'est-à-dire que j'ai posé un exemple qui est l'exemple du soin médical. J'ai entendu la réponse. La réponse, c'est oui, on va voir. Mais donc, je veux un engagement. Je veux entendre,
oui,
moi Anne Hidalgo, présidente
aussi,
de la République.
Pierre Chasseret, ouais. Je veux aussi un engagement. Je veux aussi que 40 millions d'automobilistes considèrent que l'enjeu climatique et la transition écologique, c'est quelque chose qui doit tous nous unir.
Bien sûr.
Je veux entendre aussi que, de toute façon, d'ici 10 ans, il n'y aura plus, ou 15 ans, plus de véhicules thermiques qui seront fabriqués. Et donc, d'ores et déjà, il faut rentrer dans cette transition. Et là, après, une fois qu'on a le cap, les délais, et qu'on regarde les situations, comme par exemple celle qu'on a évoquée tout à l'heure, j'ai dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Eh bien, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, alors, qui peuvent être des dérogations.
Alors, pour ce qui est des véhicules thermiques et de la construction, les constructeurs eux-mêmes disent qu'ils vont arrêter.
Absolument.
Donc là, pour le coup, j'ai même pas besoin de le dire, avec 40 millions d'automobilistes, les constructeurs le disent. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde veut de la transition. Ceux qui diront qu'ils sont les candidats d'une transition en douceur auront le sentiment que les Français iront de leur côté. Aujourd'hui, la rupture n'est pas possible. J'entends cette mesure et je ne pensais pas dire ça un jour à Hidalgo.
Eh ben, merci. Une transition programmée.
Juste pour terminer, Anne Hidalgo, je voudrais vous poser deux questions politiques extrêmement rapides parce que malheureusement, le temps nous est compté. D'abord, vous incarnez comme Yannick Jadot une social-écologie. Vous avez des positions différentes, on vient de l'entendre sur le carburant par exemple. Dans les sondages, pour l'instant, vous êtes tous les deux en dessous des 10%. Pourquoi ne pas s'unir ? Est-ce que la porte reste ouverte ?
D'abord, il faut bien sûr que tout le monde discute et qu'on porte nos idées et qu'on soit... Vous savez, on est au début d'une campagne. Hein. Je sens beaucoup de fébrilité et des gens qui nous expliquent que les enquêtes d'opinion sont des résultats définitifs d'une élection qui aurait lieu aujourd'hui. Il faut arrêter ce délire quand même. Hein. Une campagne électorale, c'est un moment où les candidats viennent poser, proposer, se débattre. Et puis on aime ça dans notre pays. Hein. C'est quand même un moment fort où on pose les options pour le pays, laissons quand même ce débat se dérouler. Et je pense que les Françaises et les Français eux-mêmes vont créditer les uns et les autres de plus de crédibilité. Et on verra. Ce que je veux vous dire, c'est que la femme politique que je suis est bien décidée à aller au bout aussi, parce que je veux porter aussi, au-delà de la transition écologique, au-delà de la transition sociale de cette transition écologique sur laquelle il faut mettre des mesures d'urgence, je veux porter la voix des femmes. Je veux porter la voix des femmes de ce pays qui ne peuvent pas en permanence se contenter de passer les plats. Voilà. Et il est temps qu'une femme dans ce pays accède vraiment à des postes de premier plan.
Merci Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate à l'élection présidentielle, d'être venue débattre ce soir sur RTL avec vous. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, merci aussi. Vous avez presque réussi à revivre ensemble, c'est formidable ce slogan RTL. Merci en tout cas d'avoir confronté vos idées dans RTL Soir et d'avoir inauguré donc nos débats présidentiels. Pause et ensuite on va accueillir l'équipe dont défait le monde pour 20 minutes d'actu. Autrement, va notamment se poser cette question en pleine révélation mondiale sur les Pandora Papers. L'optimisation et l'évasion fiscale, comment ça fonctionne exactement ? A tout de suite sur RTL.
RTL Soir.